Wikipédia, arithmétique modulaire. En mathématiques et plus précisément en théorie algébrique des nombres, l'arithmétique modulaire est un ensemble de méthodes permettant la résolution de problèmes sur les nombres entiers. Ces méthodes dérivent de l'étude du reste obtenu par une division euclidienne. Si ses origines remontent à l'Antiquité, les historiens associent généralement sa naissance à l'année 1801, date de la publication du livre Disquisition arithmétique 1 de Carl Friedrich Gauss, 1777-1855. Sa nouvelle approche permet d'élucider de célèbres conjectures, 2, et simplifie les démonstrations d'importants résultats, 3, par une plus grande abstraction. Si le domaine naturel de ces méthodes est la théorie des nombres, les conséquences des idées de Gauss se retrouvent dans d'autres champs des mathématiques, comme l'algèbre ou la géométrie. Le XXe siècle modifie le statut de l'arithmétique modulaire. D'une part, d'autres méthodes sont nécessaires pour progresser en théorie des nombres. D'autre part, le développement de nombreuses applications industrielles impose la mise au point d'algorithmes issus des techniques modulaires. Ils résolvent essentiellement des questions soulevées par la théorie de l'information, une branche maintenant surtout considérée comme des mathématiques appliquées. L'article Congruence sur les entiers propose une introduction plus mathématique à nos Z/Z, traite le même sujet de manière moins didactique et plus exhaustive. Usage. En mathématiques pures, ce terme est très peu utilisé. Le vocable proche le plus fréquent est théorie algébrique des nombres, 4, qui désigne un domaine plus large, contenant par exemple les notions d'entiers algébriques et de théorie de Galois, 5. En mathématiques appliquées, cette expression est d'un usage fréquent pour décrire les bases mathématiques de différents domaines de la théorie de l'information, cryptologie, théorie des codes et informatique. De nombreux outils et algorithmes entrent dans ce champ d'études. On y trouve les tests de primalité, la décomposition en produits de facteurs premiers, 6, l'utilisation des caractères d'un groupe par exemple, pour la transformer de Fourier discrète, 7, ou encore l'étude d'autres quotients que ceux des entiers, comme celui des polynômes, 8. Selon les différents auteurs et le domaine d'application, ces extensions sont considérées, soit comme une partie intégrante de l'arithmétique modulaire, 9, soit comme des applications, voire ne sont pas citées du tout. Sous sa forme simple, elle prend parfois le nom d'arithmétique de l'horloge, 10. Le terme de système modulaire est utilisé, 11, pour désigner une arithmétique modulaire sur d'autres ensembles que les entiers. Histoire. Origine. Au IIIe siècle, avenue Jésus-Christ, Euclide formalise, dans son livre Les éléments, les fondements de l'arithmétique. On y trouve le lemme portant son nom, une version datée du théorème fondamental de l'arithmétique et une étude sur les nombres parfaits, 12, dans la proposition 36 de son livre 9, 13. Diophante d'Alexandrie, environ 250, 14, écrit Arithmética contenant 130 équations. Il traite essentiellement de problèmes ayant une unique solution numérique et à valeur fractionnaire ou entière. On y trouve le fait que les nombres, somme de deux carrés parfaits, ne sont jamais de la forme 4n plus 3. Les équations, à coefficients entiers et dont les solutions recherchées, sont entières prennent aujourd'hui le nom d'équations diophantiennes. La Chine développe parallèlement une arithmétique modulaire. Sun Tzu écrit vers l'an 300 un traité de mathématiques, 15, dont le problème 26 du chapitre 3 est le suivant. Soit des objets dont on ignore le nombre. En les comptant 3 par 3, il en reste 2, en les comptant 5 par 5, il en reste 3 et en les comptant 7 par 7, il en reste 2. Combien y a-t-il d'objets? 16. Qian Zhu Shao, 1202-1261, développe le théorème des restes chinois, 17. Son traité est remarquablement avancé, il traite d'un système d'équations linéaires de congruence dans le cas où les moduli ne sont pas premiers entre 2 à 2. Ses travaux sur les systèmes de congruence dépassent en sophistication ceux de Long Haruler, 1707-1783. On peut citer Georges Sarton pour qui Qian Zhu Shao était l'un des plus grands mathématiciens de race chinoise, de son temps et est vrai dire de tous les temps, 18. Le Xe siècle voit un déclin progressif puis un oubli de ses résultats, le savoir de Qian Zhu Shao ne dépasse pas les frontières chinoises avant le XXe siècle. Il est redécouvert par les travaux de l'historien des sciences Joseph Needham. En revanche, de nombreuses similarités entre les notations arabes et chinoises laissent penser à des contacts durant les périodes précédentes, 19. L'Inde possède aussi une tradition forte en arithmétique. Aryabhatta, 476-550. Recherche de manière systématique, 20, les solutions entières de l'équation linéaire à deux inconnues à coefficients entiers. Il utilise pour cela un algorithme appelé QTAKA, publié dans son livre, 21, appelé Aryabhatiya. Les équations diophantiennes de degré 2 sont étudiées par Brahmagupta 598-668, à l'aide de la méthode Chakravala, 22. La civilisation islamique joue un double rôle en arithmétique. Elle véhicule le savoir acquis par les Grecs, Indiens, Chinois et Européens, 23, et elle apporte des connaissances nouvelles, 24, notamment sur l'étude des propriétés de certains ensembles d'entiers, comme les nombres premiers, parfaits, amicaux ou figurés, 25. Dans ce contexte, Poistaïb Lucas réalise une traduction partielle de l'arithmotica de Diophante d'Alexandrie, 25, à la fin du X siècle et à l'âge d'âge traduit à la même époque les éléments d'Euclide, 26, son collègue Al-Khwarizmi, environ 783, environ 850, écrit un livre sur la numération indienne. Si le livre est perdu, il reste connu par une traduction latine Algorithmi de Numero Indorum, 27. Tabi, 836-901, étudie les nombres amicaux et les nombres parfaits, 28. Alhazen, 965-1039, continue ses travaux sur les nombres parfaits et découvre le théorème de Wilson, 29. Apparition en Europe. En 1621, Claude Gaspard Bachet de Mézyriac, 1581-1638. Traduit le livre de Diophante en latin. Les questions soulevées intéressent les mathématiciens de l'époque, particulièrement les Français. Pierre de Fermat, 1601-1665, propose un grand nombre d'énoncés, les trois plus célèbres étant probablement son grand théorème, son théorème des deux carrés et son petit théorème. La communauté scientifique se lance des défis sur ce sujet, ainsi Fermat demande. Un nombre carré qui, ajouté à la somme de ses parties aliquotes, IE, 7 diviseurs, face un cube. Il conclut par « J'attends la solution de ces questions, si elle n'est fournie ni par l'Angleterre, ni par la Gaule belgique ou celtique, elle le sera par la Narbonnaise, 30. » Marin Merson, 1588-1648, recherche des nombres premiers particuliers. Fermat lui écrit « Si je puis une fois tenir la raison fondamentale que 3, 5, 7, 17, 257, 65537 son nombre premier, il me semble que je trouverai de très belles choses en cette matière, car j'ai trouvé des choses merveilleuses, dont je vous ferai part, 31. Ces nombres sont maintenant appelés nombres de Fermat, et sa phrase s'avère être l'unique conjecture fausse proposée par l'auteur. René Descartes, 1596-1650. Recherche sans y parvenir, a démontré que si la division par 8 d'un nombre premier donne pour reste 1 ou 3, il s'écrit de la forme x2 plus 2i2. Sur ce type de problème, deux éléments sont remarquables. Astérisque les équations diophantiennes fascinent, le titre d'un des livres de Bachet de Mézyriac est évocateur. Problème plaisant et délectable, qui se font par les nombres, on peut citer encore la remarque de Fermat à propos de son grand théorème. J'ai trouvé une solution merveilleuse. 32. Astérisque les problèmes posés sont difficiles. Malgré quelques succès, comme l'identité de Bézout probablement due à Bachet de Mézyriac, l'essentiel des questions reste sans réponse, comme le théorème des deux carrés de Fermat, ou avec des réponses, pour le moins peu convaincantes, comme celle de Fermat pour son grand théorème. Mais la place me manque ici pour la développer. La première preuve reconnue apparaîtra en 1994, 1995, 33. Bien souvent, Fermat termine ses théorèmes par des commentaires avouant son échec. Je vous avoue tout net, car par avance je vous avertis que je ne suis pas capable de m'attribuer plus que je ne sais, je dis avec la même franchise ce que je ne sais pas, que je n'ai pu encore démontrer. Cette belle proposition que je vous ai envoyée. 34. Méthode utilisée. Le siècle suivant voit la résolution de certaines de ces questions, souvent par Longarulère. Il contredit Fermat en démontrant que ces nombres ne sont pas toujours premiers, et prouve le théorème des deux carrés, 35. Il commet aussi des erreurs, sa tentative de démonstration du grand théorème de Fermat, pour n égale à 3 est un échec, sa première démonstration s'avère fausse, 36. Il soulève d'autres questions, comme la loi de réciprocité quadratique, en 1782. Là encore, et malgré une tentative, 37, d'Adrien-Marie Legendre, 1752-1833. La solution reste hors de portée? Jusqu'à l'aube du XIe siècle, les méthodes utilisées, si elles dénotent une grande astuce, chez les mathématiciens, sont finalement peu nombreuses et de principes simples. L'exemple suivant, tiré du problème des deux carrés, en illustre 3. Existe-t-il un nombre dont la division par 4 donne pour reste 3 et qui est somme de 2 carrés? Soit A2 et B2 c'est 2 carrés. Seul l'un est pair car sinon leur somme serait pair et sa division par 4 aurait soit 0 soit 2 comme reste. Supposons A pair et B impair. A est pair donc son carré est un multiple de 4. L'entier B est impair donc s'écrit 2 c'est plus 1, son carré est égal à 4 c'est 2 plus 4 c'est plus 1, la division de B2 par 4 donne pour reste 1 et la somme des deux carrés donne aussi pour reste 1. Astérisque, le premier outil utilisé est celui des nombres premiers, ce raisonnement est exact, car 2 est un nombre premier. Astérisque, le deuxième est la transformation algébrique, B est transformé en 2C plus 1. Utilisé avec virtuosité, il permet aux mathématiciens de l'époque de résoudre certaines équations diophantiennes. Toute l'astuce réside à choisir avec habileté les bonnes transformations. Astérisque, le troisième, est la division euclidienne, les carrés et leur somme sont systématiquement divisés par 4. Astérisque, le quatrième, n'est pas illustré dans l'exemple, il correspond à la descente infinie utilisée dans la démonstration de l'aire du théorème des deux carrés. Elle consiste à trouver à partir d'une solution entière positive une autre solution entière positive et plus petite. La suite des solutions descend de manière infinie dans l'ensemble des entiers positifs, ce qui n'est pas possible. Cette méthode fut déjà utilisée par Fermat pour démontrer son grand théorème dans le cas où n est égal à 4. Le caractère rustique des outils se traduit par des démonstrations longues et techniques, comme par exemple la preuve de l'aire pour le théorème des deux carrés. De plus, et malgré plus d'un siècle d'efforts, l'essentiel des équations diophantiennes résiste à une telle approche. L'apport de Carl Friedrich Gauss. À l'âge de 17 ans, Carl Friedrich Gauss, 1777 à 1855, démontre la loi de réciprocité quadratique. Un an plus tard, le 30 mars 1796, il prend conscience que ses calculs arithmétiques permettent de construire à la règle et au compas l'heptadécagone, c'est-à-dire le polygone régulier à 17 côtés, problème resté ouvert depuis l'Antiquité. Enfin, en 1801, il publie Disquisition arithmeticae, recherche arithmétique, et est surnommé le prince des mathématiciens. 38. Ces deux grandes découvertes procèdent d'une même démarche, la mise au point d'outils plus sophistiqués que ceux dont disposaient Fermat ou Euler, simplifiant les démonstrations au prix d'une abstraction plus grande. Sa démarche fonde l'arithmétique modulaire. Elle est appliquée d'abord aux entiers puis aux polynômes, puis à un nouvel ensemble d'entiers, maintenant appelé entiers de Gauss. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805-1859, découvre un ensemble analogue, celui des entiers de Dirichlet. Il lui permet d'initier la preuve du théorème de Fermat pour n égale 5, qu'il envoie à l'Académie des sciences en 1825. Elle est analysée par Legendre, qui met quelques mois pour la mener à bonne fin, 39. Toutes les équations diophantiennes de Fermat sont maintenant résolues à l'exception de son grand théorème. De nouvelles conjectures apparaissent. Par exemple, si A et B sont premiers entre eux, la suite arithmétique de valeurs initiales, A et de raison B, contient-elle des nombres premiers? Si oui, combien? Gauss et d'autres mathématiciens comme Legendre ont bien imaginé qu'il en existe une infinité, mais ne parviennent pas à le démontrer. De même, la loi de réciprocité quadratique doit posséder des équivalents pour les ordres supérieurs. L'arithmétique modulaire est enrichie. Dirichlet, un élève de Gauss, trouve une démonstration, 40, du théorème de la progression arithmétique en développant le concept des caractères et en formalisant les bases de la théorie analytique des nombres. Son raisonnement est un joyau de l'arithmétique modulaire. Charles Gustave Jacob Jacobi, 1804-1851, écrit dans une lettre à son frère. En appliquant les séries de Fourier à la théorie des nombres, Dirichlet a récemment trouvé des résultats atteignant les sommets de la perspicacité humaine. 41. Dirichlet n'est pas le premier à utiliser des outils qui sont maintenant qualifiés de conséquences de l'analyse harmonique sur un groupe abélien fini. Legendre, pour tenter de démontrer la loi de réciprocité quadratique, développa des calculs similaires, 42, sur les réels, formalisant ce qui est maintenant appelé le symbole de Legendre. Gauss enfin généralise cette approche aux nombres complexes dans son livre de 1801. Ses calculs portent le nom de somme de Gauss et période de Gauss. Au XIe siècle, ces mathématiques sont dénommées arithmétique transcendante, 43. Si le terme d'arithmétique reste largement usité, Legendre considère, en 1830, cette branche comme suffisamment développée pour mériter le terme de théorie des nombres, 44. L'apparition de nouvelles techniques, différentes de celles de Gauss, introduit une subdivision avec la théorie algébrique des nombres et la théorie analytique des nombres. Le terme d'arithmétique transcendante tombe ensuite en désuétude avec l'apparition des nombres transcendants. XXe siècle. Cryptologie. Ce domaine quitte celui des mathématiques pures? En revanche, une application industrielle fait, au cours du temps, de plus en plus appel aux notions mathématiques développées par Gauss. La science des codes secrets appelée cryptologie. En 1883, Auguste Kerckhoff, 1835-1903, énonce que la sécurité d'un système de cryptographie ne doit pas reposer sur le secret de l'algorithme. La sécurité ne repose que sur le secret de la clé, 45. Cette approche est à l'origine d'une modification profonde de cette science. Au milieu du XXe siècle, elle devient une branche des mathématiques appliquées, 46. Au début des années 1930, le bureau du chiffre polonais fait appel au mathématicien Marian Rajowski, 1905-1980, pour percer le code du système Enigma utilisé par les Allemands. Les anciens codes, comme le chiffre de César, sont réinterprétés comme une transformation mathématique dans l'ensemble des moduli de Gauss sur les nombres entiers. Le terme d'arithmétique modulaire, 47, est utilisé pour décrire ces techniques. Durant les années 1970, Horst Festel, 1915-1990, développe, 48, un système à clé privée, le Data Encryption Standard ou DE, qui devient le standard des applications non classifiées, 49. Les cryptanalystes du DE, et plus généralement des chiffrements symétriques, utiliseront des mathématiques issues des travaux de Dirichlet sur les caractères, dans le cadre d'un espace vectoriel, sur un corps fini à deux éléments. En 1976, une nouvelle famille de codes est découverte, 50, fondée sur une clé publique. Des solutions industrielles sont rapidement développées, la plus célèbre est dénommée RSA. Elle se fonde sur les travaux de Fermat et de Lehr, 51. Le terme « arithmétique modulaire » est, dans ce contexte, utilisé pour décrire, 52, non seulement la structure des moduli sur les entiers, mais aussi les théorèmes traitant des nombres premiers, comme la décomposition en produits de facteurs premiers, le théorème chinois, le petit théorème de Fermat et sa généralisation par Euler. L'arithmétique modulaire est un domaine de recherche actif au début du XVI siècle. Une mise en œuvre efficace nécessite l'utilisation d'opérations sur des grands ensembles de moduli. L'approche de Gauss est utilisée sur des polynômes à coefficients dans un corps fini. L'arithmétique modulaire se généralise à d'autres ensembles que les quotients d'entiers, 53, par exemple pour la cryptanalyse. Théorie de l'information. La cryptographie n'est pas l'unique domaine utilisant le vocable arithmétique modulaire. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit l'apparition d'une nouvelle science, la théorie de l'information. En 1948, sous l'impulsion de Claude Shannon, 1916-2001, elle devient, 54, une branche des mathématiques appliquées. Si la confidentialité est l'un des sujets abordés, la fiabilité est aussi un thème majeur. Richard Hamming, 1915-1998, propose un premier algorithme, 55, dès 1950. Une fois encore, les moduli sur les entiers sont utilisés pour une des plus simples techniques de code, les sommes de contrôle. En 1960, de nouveaux codes plus puissants sont développés, 56, sur la base de polynômes à coefficients dans un corps fini. L'arithmétique utilisée prend souvent le nom de modulaire, 57. L'informatique devient un sujet, 58, universitaire au début des années 1960. Les contraintes inhérentes à la structure des processeurs imposent la représentation des nombres sous forme d'une suite finie d'informations, justifiant l'utilisation des moduli. Le terme d'arithmétique modulaire apparaît souvent, 59, on y trouve même les entiers de Gauss ou les polynômes, par exemple, pour des calculs sur des grands entiers. Les techniques développées pour la cryptographie, la théorie des codes et l'arithmétique informatique reposent sur les mêmes concepts offrant une relative unité aux mathématiques de la théorie de l'information. Outils de l'arithmétique modulaire. Congruence et les entiers. L'exemple historique de l'arithmétique modulaire repose sur les nombres entiers. Un entier n'étant fixé, Le calcul modulo n consiste à identifier tous les entiers à leur reste dans la division euclidienne par n. Ceci peut être illustré par l'exemple de l'arithmétique de l'horloge, qui correspond à n égale 12. La petite aiguille se trouve dans la même position à deux moments éloignés de 12 heures. On identifie par exemple 13h à 1h. Pour obtenir un calcul sur un tel ensemble, on vérifie que l'addition et la multiplication sont compatibles avec les identifications. Cette formalisation, 60, est l'œuvre de Legendre, qui donne le nom de résidu aux différents éléments. L'apport de Gauss consiste à analyser la structure de cet ensemble, maintenant qualifié du nom d'anneau de congruence, et note Z/NZ. Elle se divise en premier lieu en l'étude de l'addition, qui définit un groupe cyclique de générateur 1, puis de la multiplication, qui dépend des propriétés du modulo. Si celui-ci est premier, on obtient un corps. Cette approche simplifie les démonstrations arithmétiques. Les deux exemples historiques du livre Disquisition arithmétique sont le théorème de Wilson, 61, et le petit théorème de Fermat, 62. Le calcul modulaire, dans le cas où le modulo n'est pas premier, est plus complexe. Le théorème des restes chinois permet d'élucider la structure. L'anneau n'est pas intègre, il existe des diviseurs de zéro, ce sont des nombres qui, multipliés par un certain autre nombre non nul, donnent zéro. Le nombre d'éléments inversibles est donné par la fonction indicatrice de l'air. Elle permet, par exemple, de généraliser le petit théorème de Fermat. Résidus et polynômes. Gauss remarque que l'ensemble des polynômes à coefficient rationnel peut se voir appliquer la logique du calcul modulaire puisqu'il dispose d'une addition, d'une multiplication et d'une division euclidienne. Les congruences sont les restes de la division euclidienne des polynômes par un polynôme donné. Il applique cette approche au polynôme xn 1 et trouve sa décomposition en produits de facteurs irréductibles qui prennent le nom de polynômes cyclotomiques. Gauss utilise ses résultats pour trouver une construction à la règle et au compas de l'heptadécagone, polygone régulier à 17 côtés. Il hésite à considérer ses travaux comme de l'arithmétique, il écrit. La théorie de la division du cercle ou des polygones réguliers n'appartient pas par elle-même à l'arithmétique, mais ses principes ne peuvent être puisés que dans l'arithmétique transcendante, 63. Le terme d'arithmétique transcendante de Gauss est maintenant remplacé par celui d'arithmétique modulaire. La logique de cet argument est toujours d'actualité? Anti-algébrique. Le cas des polynômes à coefficients entiers diffère. La propriété de division ne fonctionne que pour des polynômes dont le plus grand coefficient est égal à plus ou moins 1. Le cas des moduli du polynôme x 2 plus 1 est envisagé. La structure modulaire obtenue est encore celle d'un anneau s'identifiant à l'ensemble des nombres de la forme plus i ou e sont des entiers et i désigne le nombre imaginaire correspondant au monomix, cet ensemble, et celui des entiers de Gauss. Il peut être muni d'une norme. À l'entier de Gauss a égal plus i est associée la norme 2 plus 2 qui provient du module des nombres complexes. Cette norme permet de définir une division euclidienne comme l'illustre la figure de droite. Les entiers sont représentés par les intersections du quadrillage. La valeur a/b existe si b est différent de 0, cependant cette valeur n'est pas nécessairement un entier de Gauss. Elle est représentée par le point noir de la figure. Dire qu'une division euclidienne existe revient à dire qu'il existe un entier de Gauss à une norme strictement inférieure à un de ce point noir. L'illustration montre que, dans le cas présent, il existe au moins trois candidats. Dans le cas général, il en existe entre 1 et 4, et dans ce contexte, seule l'existence compte. Ce résultat de division euclidienne implique des propriétés sur cet anneau d'entier, l'identité de Bézout, l'existence de nombres premiers de Gauss et un analogue du théorème fondamental de l'arithmétique. Ces nombres premiers permettent à Richard Dedekind, 1831-1916, de proposer une résolution simple du théorème des deux carrés. L'illustration géométrique est donnée sur la figure de gauche. Un nombre premier P s'exprime comme somme de deux carrés si le cercle de rayon la racine de P croise au moins un entier Gauss. Ferdinand Essenstein, 1823-1852, qui rencontre Gauss en 1844-64, découvre un nouvel anneau d'entier, 65. L'arithmétique sur cet anneau offre une démonstration rigoureuse du grand théorème de Fermat pour n égale à 3, justifiant, encore une fois, la nécessité théorique d'une telle généralisation de l'arithmétique modulaire. Caractère de Dirichlet. Dirichlet s'intéresse au nombre premier de la forme n plus, m où n et m sont deux entiers premiers entre eux et une variable qui décrit l'ensemble des entiers positifs. Il souhaite en effet démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers de cette nature. L'arithmétique modulaire est un bon outil pour cette problématique, qui est équivalente à trouver le cardinal de l'ensemble des nombres premiers dans une classe de modulo. Dirichlet considère le groupe des éléments inversibles modulo M et étudie l'ensemble des fonctions du groupe dans les nombres complexes non nuls qui vérifient si A et B sont deux résidus. F parenthèse ouvrant A point B égale F A. F B. De telles fonctions sont appelées caractères de Dirichlet. Il en existe N. Le produit de deux caractères est encore un caractère et leur table de multiplication est exactement la même que celle du groupe des unités étudiées. Les calculs sur ces fonctions sont formellement analogues à ceux réalisés 66 précédemment par Joseph Fourier 1768-1830. Il faut néanmoins atteindre le XX siècle pour voir apparaître une théorie unifiant les deux approches. Elle prend le nom d'analyse harmonique. Développement théorique. Il est fréquent que des concepts mathématiques développés dans un contexte soient réutilisés dans d'autres domaines. Ainsi, la théorie des groupes s'applique à l'arithmétique et à la géométrie. Il en est de même pour les outils de l'arithmétique modulaire, dont les outils alimentent de vastes champs des mathématiques pures, comme l'algèbre générale ou la théorie de Galois. Ces théories ne sont néanmoins pas considérées comme des cas particuliers d'arithmétique modulaire, car elles font aussi appel à de nombreux autres concepts. Structure quotient. En langage moderne, l'arithmétique modulaire se formalise par la notion de quotient d'anneau-euclidien. Le concept de relation d'équivalence permet de généraliser ce concept aux principales structures algébriques. Par exemple, le quotient d'un groupe par un sous-groupe normal est, à travers le théorème de Jordan-Hölder, un outil de base de la classification des groupes finis. Les groupes quotients sont aussi utilisés en topologie algébrique pour classifier les variétés. Dans la théorie des anneaux, la notion d'idéal joue un rôle analogue à celui de la notion de sous-groupe normal en théorie des groupes. Elle permet de construire des anneaux quotients dans un contexte plus général que celui de l'arithmétique modulaire. Le théorème des zéros de Hilbert, base du lien entre l'algèbre commutative et la géométrie algébrique, s'exprime en termes d'idéal. Les termes de congruence et de modulo sont néanmoins réservés aux quotients sur un anneau euclidien. Résidus de polynômes et théorie de Galois. L'arithmétique modulaire s'applique à l'anneau des polynômes à coefficients dans un corps. Elle est le point de départ de la théorie 67 d'Évariste Galois 1811-1832 et consiste en l'étude systématique des ensembles de modulo de polynômes irréductibles, l'équivalent des nombres premiers. Ces ensembles sont maintenant appelés extensions algébriques. Ces extensions permettent l'analyse de la résolubilité des équations algébriques, c'est-à-dire des équations s'écrivant sous forme polynomiale. Si le polynôme est irréductible, son ensemble de modulo est le plus petit corps contenant au moins une racine. Il est appelé corps de rupture. En réitérant ce processus, un corps contenant toutes les racines, le corps de décomposition, est construit. La logique modulaire du quotient fournit la structure algébrique adaptée à cette problématique. La théorie de Galois fait appel à bien d'autres notions. L'étude de la résolubilité de l'équation est possible via l'étude du groupe des automorphismes du corps, appelé groupe de Galois, grâce à la correspondance de Galois entre sous-corps et sous-groupe. Au-delà de l'étude de la résolubilité des équations algébriques, la théorie de Galois est devenue un cadre naturel de résolution de nombreux problèmes en arithmétique, géométrie arithmétique ou géométrie algébrique et permet surtout de formuler de nouveaux problèmes plus généraux dans ces divers domaines. Si cette théorie utilise le concept de quotient d'un anneau euclidien, la variété d'outils spécifiques à ce domaine en fait un champ propre, bien distinct du sujet de cet article. Il est à noter que l'un des fruits de cette théorie, les corps finis, encore appelés corps de Galois, fournissent un cadre naturel à de nombreuses applications en arithmétique modulaire. Entier algébrique et théorie algébrique des nombres. L'arithmétique modulaire offre un bon cadre conceptuel pour la résolution du grand théorème de Fermat. Cependant, si n est plus grand que 10, les anneaux d'entiers algébriques construits selon la méthode de Gauss présentent ce que Dirichlet appelle une obstruction. Il montre que le groupe des unités de cet anneau, c'est-à-dire des éléments ayant un inverse pour la multiplication, n'est plus un groupe cyclique ou abélien fini comme celui qu'étudiait Gauss. Il contient aussi des copies de l'anneau des entiers et est donc infini. Ce résultat prend le nom de théorème des unités de Dirichlet. L'obstruction provient de cette nouvelle configuration. Elle empêche l'application des techniques modulaires utilisées pour les entiers de Gauss, car l'anneau associé n'est plus euclidien. Ernst Kummer, 1810-1893, utilise un outil lié à la généralisation du quotient, maintenant formalisé par les idéaux. Il remplace les nombres premiers absents. La théorie algébrique des nombres prend alors le relais, avec des techniques différentes. L'outil de base est un anneau dont les éléments sont appelés entiers algébriques et qui possède une structure dite d'anneau de Dedekind. Kummer parvient ainsi à démontrer, 68, le grand théorème pour certaines valeurs de n premiers, c'est-à-dire pour les nombres premiers réguliers. Les seules valeurs inférieures à 100, non traitées, sont 37, 59 et 67. D'autres outils et objets d'études apparaissent, comme l'anneau adélique, ceux de la théorie de Galois, les courbes elliptiques, les séries L de Dirichlet ou les formes modulaires. Certains proviennent de conséquences presque directes de l'arithmétique modulaire, comme les corps finis, utilisés de manière intensive au XX siècle. La théorie algébrique des nombres est largement plus vaste que le cadre de l'arithmétique modulaire, tout en reposant in fine sur des techniques parfois similaires. Caractère de Dirichlet et théorie analytique des nombres. La découverte parallèle d'un produit infini, construit à l'aide de nombres premiers, est égal au sixième du carré de la surface d'un cercle de rayon 1, ouvre la voie à une approche différente pour la compréhension des nombres. Dirichlet l'utilise pour démontrer que chacun des moduli d'entiers du groupe des unités contient une infinité de nombres premiers. Ce résultat porte maintenant le nom de théorème de la progression arithmétique. Pour mener à bien sa démonstration, Dirichlet développe un outil spécifique, les séries L de Dirichlet. L'une de ces séries correspond à une célèbre fonction qui prendra le nom de zeta de Riemann. Sa plus grande difficulté consiste à prouver que ces fonctions n'ont pas de racine au point 1. Pour y parvenir, il utilise l'analyse harmonique sur le groupe des unités d'une classe de modulo 69. Néanmoins, une fois encore, l'arithmétique modulaire est insuffisante pour venir à bout du théorème. Dirichlet utilise de nombreuses techniques analytiques, comme les séries entières et l'analyse complexe. Le fruit de ces travaux donne naissance à une nouvelle branche des mathématiques, la théorie analytique des nombres. L'un des points cruciaux de cette théorie provient de l'unique article de Bérard Riemann, 1826-1866, en théorie des nombres, sur le nombre de nombres premiers inférieurs à une taille donnée. Il conjecture une localisation des racines de sa fonction. La recherche de la position des racines, initiée par Dirichlet, devient une préoccupation centrale et reste l'une des conjectures pressenties comme les plus difficiles des mathématiques de notre époque, 70. Cryptographie. L'objet de la cryptographie est d'assurer sécurité dans la transmission des messages. La confidentialité ainsi que l'authentification de ceux-ci sont deux exemples du sens donné au terme sécurité. On peut citer deux exemples, la protection des messages qu'utilise une armée pour empêcher une anticipation de l'ennemi, nécessaire, ou la carte bleue proposée par le système bancaire, offrant à un usager une bonne sécurité. Nécessaire, en termes plus mathématiques, l'opération de chiffrement se traduit par un algorithme, c'est-à-dire une fonction f qui, à un message en clair m et une clé k, associe un message chiffré f, k, m. La connaissance du message chiffré et de l'algorithme doit être insuffisante pour reconstituer le message en clair sans une clé de déchiffrement. Dans le cas de la cryptographie traditionnelle, dite cryptographie symétrique, la clé de déchiffrement est identique à la clé de chiffrement ou s'en déduit aisément. Cette clé doit alors rester secrète. La cryptographie asymétrique s'appuie sur le constat que seule la clé de déchiffrement doit rester secrète et connue du seul récepteur du message. Elle n'a pas besoin d'être communiquée à ses correspondants. Alice utilise la clé de chiffrement de Bob que celui-ci a rendue publique pour lui envoyer un message. Seul Bob peut le déchiffrer, même Alice, si jamais elle avait perdu le message en clair, en serait incapable. Bob doit répondre en utilisant la clé de chiffrement d'Alice. L'objectif est donc de définir une fonction simple à évaluer mais difficile à inverser sans la connaissance d'un secret. L'arithmétique modulaire a été la première à offrir des solutions et elle est toujours à la base de beaucoup de solutions commerciales. Par exemple, l'échange de clés Diffie-Hellman, premier exemple historique, 50, exploite la difficulté pratique à inverser l'exponentiation modulaire. Cette dernière, ou ses généralisations à d'autres groupes, reste fondamentale dans le domaine. La cryptographie asymétrique résout en particulier le délicat problème de la distribution des clés en cryptographie symétrique. Si plusieurs correspondants communiquent en cryptographie symétrique, une clé différente s'avère nécessaire pour chaque couple d'intervenants, alors qu'en cryptographie asymétrique, chaque correspondant dispose d'une clé qu'il garde secrète et d'une clé qu'il rend publique. Cependant, elle n'a pas fait disparaître les codes symétriques qui offrent des algorithmes beaucoup plus efficaces. Pour une sécurité équivalente, les codes symétriques présentent l'avantage de nécessiter des clés nettement plus petites, 128 bits pour la version courante de A, contre plus d'un millier pour le SA, mais surtout le chiffrement, comme le déchiffrement, sont de 100 à 1000 fois plus rapides, 71. Les systèmes cryptographiques modernes, comme ceux utilisés par les cartes bancaires, ou le protocole de communication crypté SSL/TLS, très utilisé sur Internet, nécessaire, n'utilise qu'en début de communication la cryptographie asymétrique pour échanger les clés d'un chiffrement symétrique qui prendra ensuite le relais. Cryptographie asymétrique. Le code RSA est un exemple largement répandu de cryptographie asymétrique. Il se décrit de la manière suivante. Alice, le choix des prénoms est traditionnel, souhaite pouvoir recevoir des messages de Bob sans qu'Eve puisse les déchiffrer. Alice choisit de grands nombres premier P et crée un entier E, premier avec l'ordre G du groupe des unités de Z/PQZ. Ici G est égal à P, 1, Q, 1, soit la valeur de la fonction indicatrice de l'air en N égale PQ. Les messages sont supposés être des éléments de cet anneau. Si Bob souhaite transmettre le message M à Alice, il transmet la valeur de M modulo N. Alice a rendu au préalable public les valeurs de N égale PQ, E et donc la fonction F de chiffrement, qui est ici égale à F a pu intercepter la connaissance de F, E et N, ces informations sont en effet publiques. En revanche, elle ne peut intercepter les valeurs de P et Q qui n'ont jamais été communiquées. Pour Bob, la fonction de codage est aisée. Il s'agit d'une simple exponentiation modulaire. Pour Alice, la lecture l'est aussi, il lui suffit de trouver une solution à l'identité de Bézout. En revanche, F ne connaît pas a priori la décomposition en produit de facteurs premiers de N. Elle doit calculer le logarithme discret de F, M, ce qui constitue un problème ardu. La méthode la moins lente connue correspond à déterminer les valeurs de P et de Q. Nécessaire, si N est grand, il n'existe pas, à l'ordre du jour, d'algorithme assez efficace pour résoudre cette question. Nécessaire, la clé permettant le chiffrement est la donnée de E et N. La force d'un tel système réside dans le fait que la connaissance de cette clé ne permet pas le décryptage, elle peut donc être publique. Les valeurs de P et Q constituant la clé de déchiffrement. Cryptographie symétrique. La cryptographie asymétrique n'existerait pas sans les méthodes issues de l'arithmétique modulaire. Celle-ci ne joue pas le même rôle fondateur en cryptographie symétrique, mais n'en est pas absente pour autant. Les chiffrements symétriques se divisent en deux grandes familles dont l'une, les chiffrements par flot, utilise souvent comme composant de base les suites récurrentes linéaires sur un corps fini, voire ci-dessous. L'autre, celle des chiffrements par bloc, comprend entre autres le D et son successeur, le standard de chiffrement avancé, appelé couramment A, pour Advanced Encryption Standard. Ces derniers opèrent sur des blocs de données d'une taille fixe comptée en octets, 8 pour le D par exemple. Une suite d'opérations primitives assez simple est appliquée de façon répétée pour coder un bloc. Un octet, ou plus généralement un bloc de N bits, peut être vu comme les coefficients d'un polynôme sur les entiers modulo 2, de degré maximal N1. Cela a conduit les cryptologues à s'intéresser à certaines opérations sur les corps finis de caractéristiques 2. Ainsi, il s'avère que l'opération d'inversion sur le corps fini F de N, composé avec une transformation affine, a de bonnes propriétés cryptographiques pour en faire l'une des primitives des chiffrements par bloc, 72. Ceci a été exploité par les auteurs du chiffrement Rijdahl, qui est devenu la publication officielle de ce dernier par le NIST, agence fédérale américaine, contient d'ailleurs quelques préliminaires mathématiques sur le sujet, 73. Cependant, il n'est nul besoin d'algorithmique sur l'arithmétique ou les corps finis pour l'implémentation. Ces opérations sont représentées par des tables, comme les opérations analogues du désobtenuel de façon beaucoup plus heuristique. Certains cryptologues ont vu une faiblesse potentielle dans la caractérisation, trop algébrique de Rijdahl, qui le rendrait plus accessible à l'imagination des mathématiciens, 74, ce qui n'a pas empêché son adoption pour la test de primalité. Les codes RSA utilisent comme clé les nombres premiers P et Q du paragraphe précédent. L'usage, pour les trouver, consiste à choisir un nombre presque au hasard, de tester s'il est premier ou non et de recommencer s'il ne l'est pas. Le crible d'Eratosthène est une méthode rapide pour les petits nombres. Utilisée habilement, 46 tests suffisent pour vérifier la primalité d'un nombre inférieur à 39 000. En revanche, il est inefficace pour une application industrielle employant des nombres qui s'écrivent avec plusieurs centaines de chiffres. La majorité des tests de l'industrie se fondent sur des variantes du petit théorème de Fermat, 75. Si un nombre P est premier, alors pour tout entier A, AP congru A modulo P. La réciproque est fausse. Il existe des nombres non premiers, appelés nombres de Carmichael, par exemple 561 égale 3, 11, 17, pour lesquels la congruence est vraie pour toute valeur de A. Toutefois, si P n'est ni un nombre de Carmichael, ni un nombre premier, la congruence est fausse pour au moins la moitié des valeurs de A comprises entre 1 et P. Que la congruence soit vérifiée pour un grand nombre de valeurs de A indique une très forte probabilité de primalité pour P s'il n'est pas un nombre de Carmichael. Le test de primalité de Solovay-Strassmann et surtout le test de primalité de Miller-Robin sont deux exemples largement utilisés. Ils se fondent sur une analyse plus poussée du petit théorème de Fermat et n'admettent pas d'analogue au nombre de Carmichael, ce qui lève l'un des problèmes du test de Fermat. Pour ces deux méthodes, un test de primalité déterministe consiste à vérifier la propriété pour un nombre de valeurs de A garantissant une preuve irréfutable. Le nombre de calculs à effectuer étant rédhibitoire, on se contente d'un test probabiliste. Il consiste à vérifier la congruence sur un ensemble de valeurs de A choisies pour assurer une probabilité de primalité supérieure à une valeur donnée, souvent 76 égale à 1 demi, 100. Décomposition en produits de facteurs premiers. La sécurité par l'obscurité n'est pas de mise pour les codes RSA. Il est important de connaître précisément l'état de l'art de la décomposition des entiers en termes de facteurs premiers. Un concours appelé compétition de factorisation RSA fut ouvert jusqu'en mai 2007, proposant un prix pour quiconque capable de factoriser un nombre choisi dans une liste rendue publique. Le crible d'Eratosthène est un test de primalité qui offre une méthode de décomposition. Mais une fois encore, il n'est pas applicable pour de grands nombres car trop lents, 77. Les différentes méthodes actuellement utilisées reposent souvent sur les résidus quadratiques, 78. Un diviseur de 0 est un résidu quadratique contenant, comme représentant au moins deux carrés parfaits. L'objectif est de trouver ces deux carrés. Cette approche est celle du crible quadratique et de l'algorithme de factorisation par crible sur les corps de nombres généralisés, le plus rapide connu en 2007, 79. On peut encore citer l'algorithme de Pollard qui utilise le paradoxe des anniversaires. Corps fini. De même que pour l'arithmétique des mathématiques pures, d'autres structures sont nécessaires pour exploiter les capacités offertes par l'arithmétique modulaire. En informatique, les nombres sont codés sur n bits, c'est-à-dire correspondent à une suite de longueur n composée de 0 et de 1. Une telle suite peut être considérée comme un vecteur d'un espace vectoriel de dimension n sur le corps fini F2 à deux éléments. Cette structure est souvent considérée comme l'espace des polynômes à coefficients dans F2. Pour garantir la stabilité de la multiplication, la logique de Gauss est appliquée. Cet espace est quotienté par un polynôme irréductible, l'équivalent d'un nombre premier, de degré n. La structure obtenue est le corps fini de cardinal de n. Un nombre à modulo de n et un polynôme p, x, du système modulaire sont très semblables. Ils s'écrivent en effet à /mrk égale 91 061 592 /mrk égale 91 061 552 /mrk égale 91 061 472 mrk égale 91 061 432 /cad et mrk égale 91 061 312 mrk égale 91 061 272 /mrk égale 91 061 152 /somme(i) égale 0, chapeau, n1, mrk égale 91 061 072 /cad, mrk égale 91 060 952 (i) mrk égale 91 060 872 /matbf(2). Un exemple d'utilisation est la création d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires dans F2. De tels générateurs sont utilisés par exemple pour le chiffrement de flux, 80 à 51 utilisé dans le contexte d'une communication orale par téléphone portable. Un élément de l'algorithme est la constitution d'un registre à décalage. Étant donné deux suites finies d'éléments de F2 de longueur n, une suite de coefficients et une séquence d'initialisation, soit un tel registre fournit une suite pseudo-aléatoire, UJ, obtenue par récurrence linéaire. La suite des coefficients est souvent fixe. La clé est alors la séquence d'initialisation, qui peut être représentée par un entier à modulo de n. La suite obtenue est périodique, cependant si la suite des coefficients est bien choisie, la période est très longue, de n, 1. Cette situation se produit si le polynôme de rétroaction Rx, donné par la formule suivante, est le polynôme minimal d'un élément primitif du groupe cyclique F2n astérisque. Analyse harmonique, sur un groupe abélien fini. Les idées de Dirichlet s'appliquent sur le système modulaire du paragraphe précédent. Pour l'addition, l'espace vectoriel V précédent est un groupe abélien fini. Les caractères de ce groupe forment une base orthonormale de l'ensemble des fonctions de V dans celui des nombres complexes. Il est à noter, 81, que l'ensemble d'arrivée choisi n'est pas toujours celui des complexes, mais parfois le corps F2. Les résultats sont strictement identiques. Une telle structure dispose d'une analyse harmonique. Si l'ensemble d'arrivée est choisi égal à F2, la transformée de Fourier prend le nom de transformée de Wahls. Cette approche est utilisée à la fois pour les systèmes D, RSA et certains chiffrements de flux. Un registre à décalage est trop aisément déchiffrable. Pour un registre de longueur n, même si la suite engendrée est de période de n, 1, l'algorithme de Berlekamp-Massey permet de déterminer celle-ci grâce à la connaissance de 2n valeurs consécutives avec une complexité quadratique. Ainsi, si la clé est composée de 128 bits, il suffit de 128x 128, k égale 16, 384, k étapes pour le décrypter ou k est suffisamment petit pour que cela représente une sécurité insuffisante. La solution adoptée consiste à utiliser plusieurs registres à décalage. Les différents résultats sont vus comme un élément d'un nouvel espace vectoriel sur F2. Une fonction booléenne associe à chaque élément de cet espace la valeur 1 ou 0. Si une telle fonction est bien choisie, le meilleur algorithme de déchiffrement connu demande de l'ordre de 2n étapes pour trouver le signal apportant la confusion. La détermination de cette fonction est obtenue à l'aide des outils de l'analyse harmonique. Pour un code RSA et à la fin du XX siècle, la clé est souvent un nombre, 82, dépassant 10308. Il est important de disposer d'une multiplication rapide sur les grands moduli. La technique consiste à identifier les moduli au polynôme sur un corps fini. La multiplication de deux polynômes de degré n est une opération qui, si elle est réalisée de manière naïve, impose une complexité quadratique. Les caractères du groupe additif associé étant orthogonaux, la complexité devient linéaire si une telle base est utilisée. Un calcul plus rapide consiste à réaliser une transformée de Fourier rapide, à multiplier les deux résultats et à opérer la transformée de Fourier inverse. La complexité totale est alors en n log n, où log désigne ici le logarithme de base 2. Code correcteur. Un code correcteur n'a pas la vocation d'assurer la sécurité, mais la fiabilité de la transmission d'un message. Il permet de restituer le texte original même si une perturbation aléatoire et modérée se produit durant la transmission. Le message encodé est transmis sous une forme appelée mot du code. Il contient non seulement les informations du message initial, mais aussi les redondances permettant la validation d'une bonne communication et parfois la correction automatique d'éventuelles erreurs. Un mot du code est composé d'une famille de n lettres choisies dans un alphabet, en général binaire. Le cas industriel le plus fréquent est celui du code linéaire, la valeur n est constante pour chaque mot du code et est appelée dimension du code. L'ensemble des mots du code est muni d'une structure d'espace vectoriel de dimension n. Les codes linéaires utilisent essentiellement l'arithmétique modulaire comme base mathématique. Beaucoup enrichissent la structure d'espace vectoriel par celle d'un anneau de polynôme sur un corps fini. Ce corps est parfois le corps binaire, souvent un corps de cardinal une puissance de 2. On parle alors de code cyclique. Les codes linéaires sont largement présents dans l'industrie. La télécommunication les utilise pour le téléphone portable ou Internet, l'informatique pour notamment la communication entre la mémoire et deux processeurs, l'audio-visuel pour les disques compacts ou d'autres formats de même nature comme les DVD. Bref, nécessaire, somme de contrôle. Une somme de contrôle est un code linéaire particulièrement utilisé. Il correspond à un code correcteur dont seule la détection est automatisable. La correction est obtenue par une demande de répétition du message. Au message initial est ajoutée une information codée sur une lettre. La lettre est choisie de telle manière à ce que la congruence de la somme des lettres du mot du code soit égale à une valeur donnée, souvent zéro. Dans l'exemple illustré sur la figure de droite, le message initial est composé de deux lettres. Un mot du code en contient trois. Si le message initial est 00, le mot du code transmis est 000. Si le message est 01, le mot du code devient 011. Les quatre mots possibles du code sont illustrés par les points verts de la figure. Si une unique erreur se produit sur n'importe laquelle des trois lettres du mot du code, le message reçu correspond à un point noir. Le récepteur sait qu'il doit demander le renouvellement de la transmission. Cette configuration est analogue quelle que soit la longueur du mot du code. Une longueur égale à 8 est souvent choisie, elle permet la transmission d'un message de 7 lettres. Le résultat est identique, chaque mot licite du code ne possède pour voisin que des mots hors du code, une unique erreur durant la transmission est ainsi détectée. En revanche, une double anomalie est systématiquement passée sous silence. Code cyclique. Il existe certaines situations où la demande de répétition n'est pas possible, par exemple pour un DVD, lorsqu'une poussière masque une information. Il est nécessaire d'imaginer des codes correcteurs qui, non seulement détectent, mais corrigent automatiquement les erreurs. La méthode utilisée consiste à éloigner les mots du code à une distance suffisante pour repérer le bon message d'origine. La distance entre deux points correspond au nombre de lettres à modifier pour passer de l'un à l'autre. Le graphique de gauche illustre cette situation. Les points verts correspondent aux mots du code, par définition sans erreur. Les bleus sont ceux obtenus lorsqu'une unique lettre est altérée dans la transmission et les rouges quand deux lettres sont modifiées. Dans le schéma, on remarque que chaque point bleu contient un unique point vert à une distance de 1 et à chaque point rouge correspond un unique point vert situé à une distance de 2. Si une ou deux erreurs se sont produites, l'unique point vert le plus proche correspond nécessairement au message initial. Un tel code est capable de protéger jusqu'à deux erreurs. L'arithmétique modulaire fournit des solutions optimales pour construire la géométrie d'un code linéaire correcteur. Comme un espace vectoriel ne constitue pas une structure suffisante, pour définir des moduli, il est enrichi d'une structure d'anneaux de polynômes quotientés par xn, 1, où n désigne la dimension de l'espace vectoriel. Dans cet espace de modulo, le monomique xn est identifié au polynôme constant 1. Si la chaîne A0, A1, 1 est un mot du code, alors il en est de même de la suivante. En A0, A1, en 1. On parle pour cette raison de code cyclique. La logique est la même que celle d'un code correcteur, à la différence près que la congruence est définie non pas sur un entier, mais sur un polynôme cyclotomique à coefficient dans un corps fini. L'exemple le plus simple correspond au code de Hamming dont les messages à transmettre comportent 4 lettres et 3 lettres supplémentaires, décrivent les redondances. Identité de Mac-Williams. Le contexte d'un code linéaire est analogue à celui de la cryptographie. On y trouve aussi des espaces vectoriels de dimension n sur un corps fini et un système de modulo de polynômes. 83. Le polynôme choisi étant souvent xn plus 1. Les caractères du groupe sont utilisés ainsi que l'analyse harmonique associée. L'identité de Mac-Williams 84 est un exemple archétypal. Elle permet la détermination du polynôme énumérateur des poids du code dual ou encore l'étude des caractéristiques du code de Hamming. Elle est obtenue grâce à l'analyse harmonique à l'aide d'un produit de convolution.